Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
Le journal inattendu d'Hélène Noguera avec Bernard Poirette sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal inattendu d'Hélène Noguera. Hélène Noguera a accepté l'invitation de RTL et je l'en remercie vivement. Elle rentre à l'instant en studio, je vous en prie, asseyez-vous, mademoiselle Noguera. Vous êtes absolument impardonnable parce qu'il n'y a personne dans Paris. Comment faites-vous pour être en retard ?
C'est pas de votre faute ? C'est un problème d'organisation, il y a eu un petit couac et quand il y a un couac dans l'organisation...
Tout se détraque.
Mais je suis la pile.
Mais vous êtes pile à l'heure.
Pile, regardez, midi 30.
Il est 12, 30 et 40 secondes. Alors vous êtes déjà pardonné. En tout cas, vous avez une triple actualité, dirons-nous, Hélène Noguera. Vous avez un nouveau roman, déjà, qui est paru chez Flammarion au début du mois de mars, qui s'appelle Ciao Amore. Vous avez, le 9 juin, vous lirez des textes au festival Intimité Publique à Paris. Oui. Et le 13 juin, sur M6, vous avez un téléfilm qui s'appelle Bienvenue à Nimbao. Alors plus globalement, que dis-je plus globalement ? Vous avez 48 ans. Vous êtes d'origine portugaise, mais vous êtes né à Bruxelles. Vous avez une demi-sœur aussi connue que vous qui s'appelle la chanteuse Lio, mais vous détestez...
Oh, mais dites pas demi, pourquoi vous le dites ?
Juste ça. Mais vous allez nous expliquer pourquoi vous n'aimez pas qu'on dise ça.
Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Juste, je n'aime pas, pourquoi je dois expliquer ?
En fait, c'est votre sœur à 120%.
Non, mais on n'en parle pas, c'est pas un sujet. C'est ma sœur, voilà, je suis la sœur de Lio, point.
Voilà, vous êtes la sœur de Lio, c'est tout, pas le demi, le quart.
Mais non, qu'est-ce que ça peut vous faire ?
Vous êtes la sœur de Lio. Donc chanteuse, actrice et écrivaine, vous avez quitté l'école à 15 ans pour devenir mannequin, alors qu'en fait, au fond de vous-même, vous auriez aimé, si j'ai bien compris, être psychologue. Oui. Vous avez un fils de 27 ans qui est mannequin et musicien.
Mais non, il va avoir 26 ans, attention.
Ah, un an de moins. Alors 26 ans. Et vous avez 5 tatouages sur le corps, dont le mot inexorable.
Inexorable.
Inexorable, oui. Mon Dieu. Oh, il a été mal tapé. Inexorable, bien sûr, à propos duquel vous devrez nous donner forcément quelques explications.
D'accord,
tout à
ça,
l'heure.
Je veux bien.
Et votre livre préféré, eh bien, c'est cette merveille de Boris Vian qui s'appelle « L'écume des jours ». Tout ceci, Hélène Noguera, pour vous mettre en quelque sorte le pied à l'étrier. Merci de compléter maintenant par vous-même ce rapide portrait. Qui êtes-vous en fait, mademoiselle Noguera ?
Oh là là, c'est vrai, cette question-là à midi et demi ?
Oui, à midi et
demi. Ah, c'est le fameux...
C'est le portrait, c'est votre portrait.
Alors d'accord, ça je peux le faire.
Avez préparé quelque chose ?
Ben oui, ce sont les paroles d'une chanson que j'ai écrite qui est à paraître bientôt. Et donc c'est une espèce d'autoportrait. On m'a demandé un autoportrait.
Alors dites.
Voilà, je suis la reine de la piste, longue tige dadaïste, je suis le clown blanc, tu sais, le triste, la grande sauterelle équilibriste, la môme belle fesse de service, la fille comique, la féministe. J'aime bien le catch et Pina Bausch, Kenneth Anger et Jesus Kitsch, le whisky, la clope, mon dudu, son tiche, c'est mon kiff. C'est vrai, j'ai l'air d'une petite chose qui pleurniche, une poupée de celluloïde un peu candide. Je suis la reine de la piste, la queen des dance floors, la reine de la piste qui danse quand la ville dort. On me prend pour un petit truc, un genre de machine à trique, déconstruite, déconfite, dès qu'un homme me met en fuite. Faut pas se fier aux apparences, à mes chansons, à mes romances. Je suis une blanche neige d'aujourd'hui, une dure à cuire, pas une pitié. Impératrice des Amazones qui n'aime ni les falots, ni les salauds, pas dupes, pas dopés, un peu alcoolo, la grande duduche aux cornettes frites, débarquée de sa Belgique avec son fado nostalgique. C'est vrai, un peu concon, un peu cucu, un peu neuneux, un genre de félin de salon qui se fait souvent du mouron, mais au fond de tout, je me moque avec grand sérieux, puis je deviens vioque, j'ai de l'éthique et pas mal de toc. Je suis une reine mélancolique, au tempérament excentrique, paradoxale et éclectique, empathique bien qu'égocentrique, je suis la reine de la piste, la queen des dance floors, je suis la reine de la piste qui danse quand la ville dort.
C'est parfait comme autoportrait, c'est absolument parfait. Et ça, c'est la chanson, c'est le texte d'une prochaine chanson.
Voilà, c'est une chanson. Alors la musique là,
enregistrée.
Mais je vous l'ai pas fait en musique, mais on va l'enregistrer en septembre. Oui.
D'accord, pour un nouveau disque.
Pour un nouvel album, exactement.
Bon, alors de tout cela, on va avoir le temps de reparler. On verra puisque on est ensemble pour une heure.
D'accord.
Donc c'est parfait. Mais puisqu'il est 12h34 sur RTL, la règle du journal inattendu veut que d'abord on donne les dernières informations aux auditeurs, et c'est le travail de de Philippe Robuchon. Donc c'est à vous, Philippe Robuchon, pour un rapide journal.
Bonjour Bernard, bonjour Elena Noguera.
Bonjour.
Et bonjour à toutes et à tous. Petite révolution pour les voyageurs de la SNCF. À partir de juillet prochain, on ne prendra plus des TGV, mais des Inouïs. Un changement de nom, changement marketing, qu'ont connu bon nombre de grandes entreprises ces dernières années. On verra pourquoi avec Armel Lévy et surtout, on verra si ces nouveaux noms de baptême ont été bénéfiques ou pas à ces entreprises. À Taormine, en Sicile, les questions autour du climat et du commerce international empêchent toujours la signature d'un accord entre les pays du G7. Emmanuel Macron, lui, continue de faire son apprentissage international au niveau des chefs d'État. On appellera Olivier Bost sur place. Football, la finale de la Coupe de France, c'est ce soir. Angers contre le PSG. Les Angevins n'ont jamais gagné l'épreuve. Les Parisiens, 10 fois. Christian Panvert, le correspondant de RTL, est à Angers où une atmosphère très particulière règne depuis ce matin. Vous allez l'entendre. La tendance météo, c'est un peu moins beau sur le nord-ouest depuis ce matin, mais dans l'ensemble, ce sera encore une belle journée. Tous les détails avec Peggy Broche dans une petite dizaine de minutes.
Le journal inattendu sur RTL.
Mine de rien, hein, c'est une page de son histoire que s'apprête à tourner la SNCF. À partir du 2 juillet exactement, on ne montera plus dans un TGV, mais on montera dans un Inouï.
Eh oui, c'est le nom Bernard, il va falloir s'y habituer. La nouvelle sera officiellement confirmée lundi, 40 ans après avoir lancé les TGV. L'entreprise veut redonner un coup de fouet, un coup de jeune à ces trains à grande vitesse. En fait, le message que l'entreprise veut adresser à ses clients avec ce nouveau nom, c'est que Oui sera désormais le passeport à tous les services, Ouigo pour les trains les moins chers, Ouibus pour les voyages en car et donc Inouï pour les futurs TGV dans lesquels la SNCF promet de nouvelles prestations. Reste à savoir si les prix augmenteront, oui ou non.
Oui.
Bonjour Armel Lévy.
Bonjour.
On va s'arrêter avec vous sur un constat. Depuis 10 ans, quasiment toutes les grandes entreprises françaises, qu'elles soient publiques ou privées, ont changé de nom. France Télécom est devenue Orange, ERDF, Enedis, des banques ont été rebaptisées. Pourquoi tous ces changements et surtout, est-ce que pour ces entreprises, cela a été payant ?
En fait, changer de nom, cela déboussole les consommateurs. Est-ce là un coût pour un grand groupe ? Parfois plus d'€1 million. Donc une entreprise ne le fait pas pour rien. La première raison, c'est pour changer son image. Par exemple, Gaz de France-Suez, qui est devenu Engie, pour prouver que le groupe ne se bornait pas qu'au gaz et au marché français. Il investit sur l'énergie renouvelable dans un marché mondial. Changement de cap aussi pour le groupe PPR, Pinot Printemps La Redoute, rebaptisé Kering, en 2013, pour se recentrer sur le luxe. En 2013 aussi, France Télécom est devenu Orange pour dépoussiérer son image et faire oublier la vague de suicides. Aujourd'hui, c'est SFR qui va changer de nom pour devenir Altis. Patrick Drahi veut unifier ses marques et faire oublier aussi que SFR reçoit le plus de plaintes dans le secteur des télécoms depuis son rachat. Un groupe peut décider de changer de nom pour faire oublier certains scandales. On se souvient du Crédit Lyonnais devenu LCL, notamment après l'affaire Tapie. D'autres changent de nom du fait des fusions, acquisitions, en prenant la marque de leur filiale la plus connue, comme EADS, devenu Airbus en 2014 pour concurrencer Boeing, ou BSN Danone, devenu Danone en 1994.
Merci Armel Lévy. Je précise que les Inouïs, vous l'avez dit Bernard, les futurs TGV rebaptisés, feront leur apparition sur la ligne Paris-Bordeaux le 2 juillet. En bref, les conducteurs de camions-citernes toujours en grève en Île-de-France et dans l'Ouest. Le mouvement, selon la CGT, sera reconduit lundi et devrait même s'amplifier. Pour l'instant, pas de panique pour les automobilistes, pas de pénurie en vue. Les cuves sont suffisamment pleines dans les dépôts de carburant.
À Taormina, en Sicile, les dirigeants du G7 ne sont toujours pas parvenus à un accord.
Le temps passe, hein, le temps presse, car la déclaration finale est prévue cet après-midi. Les pays les plus puissants du monde ont réussi à s'entendre sur les grandes lignes en matière de terrorisme, mais ça coince toujours pour ce qui est du commerce et des mesures autour du climat. Apparemment, on pourrait s'orienter vers deux textes, un texte pour Donald Trump et un texte pour les autres pays. On devrait avoir des précisions dans les heures qui viennent. En attendant, on va s'intéresser, Bernard, à Emmanuel Macron, qui reste une des curiosités de ce G7. Ses moindres gestes, ses moindres phrases sont scrutées, pesées, maintenant qu'il a le rang de chef d'État. Olivier Bost, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL en Sicile et il faut se rendre à l'évidence, pour l'instant, Emmanuel Macron est comme un poisson dans l'eau.
Oui, Emmanuel Macron ne donne vraiment pas l'impression d'assister à son premier sommet mondial. Il est tellement à l'aise que lorsqu'il salue la petite foule dans les rues de Taormine, ce sont ses homologues qui l'imitent. Même Donald Trump s'est senti obligé d'être un peu moins désagréable. Mais la bonne humeur et les larges sourires d'Emmanuel Macron ne suffisent pas à masquer un G7 difficile. La France n'obtiendra peut-être pas grand-chose. Emmanuel Macron voulait un engagement des États-Unis sur le respect de l'accord de Paris sur le climat. Sur ce point-là, c'est d'ores et déjà raté, tellement Donald Trump se montre têtu. têtus. Les six pays, donc, sans les États-Unis, vont faire un texte à part où ils réaffirmeront leur engagement contre le réchauffement climatique. C'est mieux parti pour les règles du commerce mondial. Les États-Unis veulent s'affranchir des règles de l'OMC et faire du cas par cas pour leurs échanges commerciaux. Emmanuel Macron et ses homologues européens sont en passe d'obtenir des États-Unis un engagement à respecter ses partenaires. Donald Trump ne restera même pas pour l'expliquer. Contrairement à tous ses prédécesseurs, il quittera ce G7 tout à l'heure sans avoir donné de conférence de presse. C'est Emmanuel Macron qui racontera son premier sommet mondial aux journalistes dans l'après-midi.
À Manchester, deux nouvelles arrestations ce matin dans l'enquête sur l'attentat qui a fait 22 morts lundi. Il s'agit de deux hommes de 20 et 22 ans. Au total, 11 personnes sont en garde à vue, dont le père et le frère du terroriste arrêté en Libye.
Merci d'écouter RTL. Je vous rappelle que vous écoutez le journal inattendu d'Elena Noguera qui aura la parole dans quelques minutes. Il est 12h40 exactement. La suite du journal, juste après la pause, nous allons parler sport. On va à Angers. Toute la ville est derrière le SCO. C'est l'équipe de foot, bien sûr, avant la finale de la Coupe de France ce soir. À Saint-Denis contre le Paris Saint-Germain.
Le journal inattendu d'Elena Noguera avec Bernard Poiret sur RTL.
Et pour la partie info avec Philippe Robuchon, attention Angers, très joli titre ce matin du journal L'Équipe, à quelques heures de la finale de la Coupe de France de football.
Et oui, puisque les adversaires du Paris Saint-Germain sont donc les Angevins qui ont terminé 12e au classement de Ligue 1. Le SCO est un club très ancien, créé en 1919, mais il n'a jamais remporté de titre national. Autant dire qu'une victoire face au PSG ce soir serait un exploit. Le PSG qui a l'occasion de sauver sa saison. La coupe serait son seul trophée. Christian Panvert, l'un des correspondants de RTL dans l'Ouest, était ce matin dans les rues d'Angers où des supporters ont déjà enfilé le maillot noir et blanc du club. La température, Christian, commence sérieusement à grimper.
Ah oui, la ferveur ne cesse de monter depuis le départ des joueurs jeudi. Les agents municipaux ont installé un écran géant pour suivre le match dans le parc Bellefontaine où des milliers de personnes sont attendues à partir de 19h. Dans les rues d'Angers, on peut croiser des supporters qui arborent, comme Antoine, un maillot collector.
Alors c'est un maillot spécial pour la finale qui a été fait par Angesco cette année pour célébrer la finale ce soir à Paris.
C'est un moment très important.
Ouais, c'est magique.
Thierry regardera le match à la télé avec ses trois enfants, Yanis, Kevin et Alexis, tous très confiants.
On va se faire plaisir et puis on va voir Angers gagner contre Paris, donc ça va être exceptionnel.
Vous y croyez ?
Mais bien sûr, sinon faut pas y aller. On y va pour gagner et puis ramener le trophée. C'est phénoménal.
Kevin, tu y crois ?
Bah oui.
Ton pronostic ?
2-0, ouais.
2-0 pour
Angers.
Dans le temps réglementaire ou
Ouais, réglementaire.
Ouais, carrément.
Ouais.
Ah, vous l'avez entendu, on y croit. Plus de 18 000 supporters angevins seront à Paris ce soir. Et au moment où je vous parle, eh bien une centaine de cars convergent vers le stade Raymond Coppa. Départ à 13h, direction le Stade de France pour la fête.
La température monte effectivement à Angers. La douceur angevine, c'est pas toujours
vérifié. C'est pas garanti.
Merci Christian Panvert. Emmanuel Macron, on le note, devrait assister à cette finale ce soir au Stade de France. Il sera rentré de Taormine, normalement. En Angleterre, c'est également la finale de la Cup cet après-midi. Arsenal affronte Chelsea à 18h30. En rugby, Toulon, premier qualifié pour la finale du top 14 grâce à un drop inscrit dans les dernières secondes par le jeune Anthony Bello. Les Toulonnais ont battu La Rochelle 18-15. Ce soir, deuxième de demi-finale, Clermont-Racing, coup d'envoi 18h au stade Vélodrome. Tennis, je vous rappelle que Roland-Garros, eh bien, c'est demain. Les favoris chez les messieurs sont toujours Nadal, Djokovic et Murray. Chez les dames, absence de Serena Williams, c'est donc plus ouvert. Guy Forget, tiens, le directeur de Roland-Garros, sera l'invité du journal de 18h. Un mot du Festival de Cannes, Bernard, présentation aujourd'hui du dernier film en compétition « You Were Never Really Here » de l'écossaise Lynne Ramsay. Et puis hors compétition, présentation du dernier Polanski « D'après une histoire vraie » avec Emmanuel Seigné et Eva Green.
Voilà. Et la météo, c'est avec Peggy Broche. Peggy, globalement, ça va rester très beau et chaud cet après-midi.
Oui Bernard, encore une très belle journée avec un peu plus de nuages sur l'ouest et le nord du pays où on aura probablement des averses orageuses de la Normandie au centre et de la Bourgogne jusqu'à la frontière belge. Sur les reliefs, encore des averses orageuses possibles, mais toujours très localisées. Ça concernera essentiellement les Pyrénées, les Alpes et le Jura. Et puis partout ailleurs, sur le sud et l'est, le temps sera bien ensoleillé. Les températures, encore en hausse, surtout dans l'est du pays. On aura entre 18 et 25 sur les côtes bretonnes et normandes, de 22 à 28 sur les plages de l'Atlantique et de la Méditerranée. Et les maximales, entre 27 et 33 degrés. 33 cet après-midi à Mont-de-Marsan, 32 à Lyon. Ça montera jusqu'à 31 degrés à Paris et Lille et 30 à Biarritz.
C'est
tour.
Merci beaucoup, Peggy. La prochaine météo, c'est pour vous, hein, Elena Noguera, juste après 13h. avez déjà le texte, il n'y a pas de problème. Juste, dans le journal que vous venez d'écouter avec nous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a accroché l'oreille et que vous voudriez éventuellement commenter ? Je vous ai vu sourire quand il a dit on va peut-être faire deux textes, oui. Un pour Trump et un pour les six autres.
Oui, oui, parce que ça, on dirait qu'on est dans une blague. C'est depuis l'élection de Trump, c'est un personnage qui semble tout à fait irréel et pourtant c'est la réalité, mais on fait avec, on compose avec, il dit des choses un peu qui ont l'air bêtes et puis tout le monde semble s'en accommoder.
Bah,
et
c'est
puis
le maître du monde.
On peut rien y faire. Oui, c'est ça, c'est-à-dire on est obligé de subir, tout le monde, il n'y a plus de solution, il n'y a pas de solution, c'est le chef des Américains, quoi.
Et j'ai lu en préparant l'émission que vous regrettiez personnellement de ne pas pouvoir voter en France.
Oui, c'est vrai.
Je vous aimerais, mais vous pourriez demander la nationalité.
Je pourrais demander la nationalité française.
Belge, hein.
Je suis belge, alors je ne la demande pas parce que c'est mon acte politique à moi.
Oui.
C'est-à-dire que j'estime qu'à partir du moment où on m'a signifié il y a bien longtemps que c'était ici que je devais payer mes impôts, donc c'est ce que j'ai fait à partir de l'âge d'à peu près 16 ans puisque j'étais mannequin. J'ai commencé à gagner ma vie super tôt. Donc, je suis résidente française depuis maintenant, vous avez dit mon âge tout à l'heure, donc 48, on calcule vite, ça fait 32 ans. Ça fait 32 ans que je paye rubis sur l'ongle et sans poser de problème mes impôts en France. Donc, je participe à la vie sociale française. Donc, j'aimerais qu'à un moment donné, la loi...
Sans que vous ayez à demander.
Je n'ai pas demandé à les payer.
Non, mais sans que vous ayez demandé, vous devriez avoir la nationalité pour cette raison.
Non, je ne veux pas la nationalité. Je veux avoir le droit de voter. Je veux rester belge.
D'accord.
J'aime cette identité-là. Mon identité à moi, c'est d'être belge.
D'accord.
Donc, je trouve qu'à partir du moment où, depuis 32 ans, je paye, l'État devrait m'accorder le droit de choisir la personne qui va gérer le portefeuille auquel je participe.
Oui.
Voilà. Ma retraite est ici, ma sécu est ici. Donc, en plus, je profite des lois et des acquis sociaux français. J'y participe, mais je ne peux pas voter. Donc, je pense, personnellement, donc je propose à M. Macron d'éventuellement penser que peut-être après 10 ans de bons et loyaux paiements, l'immigré sur la terre française a le droit de voter tout en gardant son identité première qui est, par exemple, en l'occurrence, belge. Si je vous dis que je suis française, est-ce que j'ai changé ? Non.
Non.
Bon, ben voilà. Donc, à partir du moment où c'est un mot sur un papier, moi, avec mon argent, je participe à la construction de la France.
Si vous croisez Monsieur Macron, vous lui direz.
Bien sûr.
Hein, sans faute.
Mais avec joie.
Écoutez, ça semble frapper au coin du bon sens.
Mais
hein,
oui.
Comme on dit.
Mais évidemment.
Voilà. Bon, la suite du journal inattendu d'Elena Noguera dans un très court instant. Il est 12h49, une petite pause. Et ensuite, on va rentrer dans son actualité qui est culturelle au sens très large du terme. À tout de suite.
Le journal inattendu d'Elena Noguera avec Bernard Poiret sur RTL.
Mieux vaudrait la haine que l'indifférence, mais je veux vivre, 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 je veux qu'on m'aime. Je amore, je amore, je amore.
Ciao amore de Dalida, 1967, Elena Noguera. C'est lié le fait que votre dernier roman s'appelle Ciao Amore et cette chanson, ou c'est complètement déconnecté ?
Non, c'est mon personnage Cléophée chante énormément de chansons,
oui,
dans le roman pendant l'histoire, et notamment Ciao Amore parce qu'elle part en Italie, c'est un road trip où elle part en Italie, et donc une des chansons c'est Ciao Amore de Dalida, et voilà. Puis en parlant avec mon éditeur, il trouvait que c'était un bon titre pour l'histoire.
Je vous lis juste la première phrase de la tourne, hein, de la quatrième de couverture. Ouvrez les guillemets. Le premier qui m'interpelle, je l'aimerai pour toujours et il devra m'aimer en retour, sinon je le tue. C'est quoi l'histoire de cette jeune femme ? Elle choisit un homme dans la rue.
Oui, l'histoire en soi, c'est ça. C'est une jeune femme qui joue un peu comme les enfants jouent à pas marcher sur les lignes. Et si je marche sur les lignes, ça veut dire que je vais mourir. Et puis, ben, on meurt,
oui,
pas.
Oui,
donc,
oui.
Elle se dit ça en allumant sa cigarette comme un jeu, parce que c'est une enfant et qui a 28 ans. Et en fait, la personne qui lui demande du feu a une histoire en elle-même. Donc, c'est un mystère. Donc, effectivement, elle va pousser le jeu au bout. Elle va le suivre. Elle va l'embarquer avec elle. Elle va l'emmener. C'est un road trip. Donc, elle va l'emmener jusque Nice et puis l'Italie, mais disons que c'est un jeu dont elle maîtrise pas du tout les tenants et aboutissants, et c'est presque un thriller sentimental,
et ça
finalement.
Se finit pas bien, hein.
Ah ben, faut pas dire.
Mais non, je le dis pas, mais je dis que simplement que ça se finit pas forcément bien.
L'amour, on ne sait pas. L'amour, c'est toujours compliqué. Donc,
c'est une géométrie variable.
Mais en tout cas, c'est un voyage.
Vous avez dit, Elena Noguera, tout à l'heure, qu'à 15 ans, vous avez arrêté l'école pour devenir mannequin, ce que vous êtes devenue. Mais qu'au fond, vous avez regretté après parce que vous vouliez être psychologue. Et alors, j'ai appris en préparant l'émission que vous avez repris des études à 40 ans.
Non, j'ai voulu passer mon bac à 40 ans.
Vous avez voulu passer votre bac. Donc, vous y étiez presque. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé la veille du concours, la veille de l'examen?
Alors, je ne suis pas allée passer le bac parce que je me suis rendu compte en me couchant que cette année qui venait de passer, tous mes moments libres, au lieu de relire de la psychologie, de la psychanalyse et de faire des recherches pour mon futur métier de psychologue, je n'avais que écrit soit des projets de romans, des pièces, des chansons, okay. Et que donc j'étais exactement à l'endroit qu'il fallait, et que ce fantasme de si j'avais fini mes études, je serais devenue une psychologue et j'aurais pu devenir une Françoise Dolto, en m'y confrontant, je me suis rendu compte que c'était un fantasme et que finalement, j'avais pris le chemin qui était le mien.
Donc, vous avez la vie que vous avez choisie un peu par défaut quand vous étiez jeune, mais qui finalement vous correspond parfaitement.
Je crois, oui. C'est-à-dire que j'ai cru que c'était des hasards. C'est toujours difficile de savoir si ce sont les hasards qui vous mènent là où vous êtes ou si c'est des choses volontaires et si c'est vous qui les avez choisies. Donc, parfois, il est bon de se confronter aux fantasmes pour voir, plutôt que d'avoir des regrets, savoir que c'est une idée de soi, mais qui n'est pas forcément la bonne.
Et pourquoi est-ce que vous avez parmi vos 5 tatouages ce mot inexorable tatoué quelque
Alors, inexorable, il est très simple, il est sur le dos, là, sur l'épaule.
C'est votre mot préféré, c'est un de vos mots préférés, mais pourquoi? Ça correspond à quelque chose de
Alors,
vous
en regardant, non, c'est plus simple que ça, en regardant, on était obligé quand on était petit de regarder apostrophe, donc Monsieur Pivot demandait à tous les écrivains à la fin de l'émission quel est votre mot français, votre mot de la langue française, quel est le mot de la langue française que vous préférez. J'aime bien m'exprimer correctement.
Mais c'est bien.
Et voilà, et donc chacun disait son truc, et puis moi je regardais ça, et puis depuis petite, je me disais, mais et moi, ça serait quoi? Et donc très vite, petite, j'ai aimé inexorable, parce qu'il y a le gz, parce qu'il y a le b, et que c'est joli, et puis que mais c'est l'inexorable.
Au point de vous le faire tatouer,
et puis
quand
c'est
même.
C'est l'inexorable. Bah oui, parce qu'en fait, toutes ces années, finalement, entre vos 8 ans, et puis je l'ai tatoué il y a peu de temps, finalement, et puis ça vous construit, c'est-à-dire trouver le mot préféré de la langue française à 8 ans devient significatif, devient signifiant, on comprend, on l'analyse, on le trimballe avec soi, et finalement, il devient presque une définition de soi. Et donc, c'est aussi accepter l'inexorable, accepter les choses telles qu'elles sont. Et je suis devenue cette personne-là aussi.
Est-ce que vous êtes devenue aussi ce que vous êtes aujourd'hui et avez arrêté l'école à 15 ans, etc., à cause de votre sœur Lio, qui, elle, donc, est votre aînée, hein, n'est-ce pas? Elle s'est lancée dans la carrière de chanteuse un peu avant vous, et donc, notamment, avec cette chanson-là, hein, que tout le monde a en tête, forcément.
Ça, c'est moi.
Non, ça, c'est Elena Noguera. Lio, en revanche, c'est les brunes, comptent pas pour des prunes.
Ça, c'est ça.
Et vous faisiez la choriste?
Je dansais avec elle, j'étais choriste avec elle, ouais.
Et est-ce qu'elle a eu une influence fondamentale sur ce que vous êtes aujourd'hui?
Ouais, forcément, tout est
lié. On a des frères et sœurs qui pas forcément influent sur vous, mais elle, oui.
Bah si, dans n'importe quelle fratrie, il y a des influences. Tout ce qui est dans la famille, tout ce qui est dans le domaine privé, dans la sphère domestique, a des influences. C'est-à-dire que nous sommes le fruit de notre éducation, du milieu social dans lequel nous sommes et des relations et des liens tels qu'ils se créent au sein d'une famille. Donc de toute façon, on est de toute façon liés dans les fratries les uns aux autres. Donc après, une influence, là vous appelez influence, si je comprends bien, le fait que je fasse à peu près la même chose qu'elle, mais une influence peut être aussi que je fasse le contraire.
Absolument.
Voilà, donc là en l'occurrence, j'ai fait la même chose. Mais bien sûr qu'elle y est liée, elle y est mêlée. C'est très difficile après, en 3 secondes, dans une émission de radio, d'essayer de trouver à quel endroit. Alors, mon père est musicologue, il avait un groupe de free jazz, il y avait énormément de jazz à la maison, ma maman chantait du fado, la culture était à la maison une dictature, une obligation, c'est-à-dire que l'art, écouter de la musique, regarder des films, était obligé, on n'avait pas le droit de regarder le hit parade, mais on était obligé de regarder apostrophe, donc voilà, donc du coup on se tatoue des mots de la langue française sur le dos. Donc,
elle aussi, elle a des mots tatoués, votre sœur ?
Elle a des... elle n'a pas des mots tatoués sur le dos, non.
Elle a d'autres choses, peut-être. N'est pas de mots.
Mais donc voilà, donc oui, effectivement, grandir ensemble influence. Donc j'ai autant influencé sa vie qu'elle, la mienne. Elle un peu plus, parce qu'elle a 7 ans d'avance, donc forcément. Mais on s'influence, oui, les uns les autres.
Vous vous voyez régulièrement ? Vous êtes très proches physiquement aussi ? Vous voyez, vous faites des choses ensemble ?
Physiquement, on se fait des bisous, on s'embrasse.
Non, mais seulement c'est un coup de fil tous les 3 mois en disant bonjour, comment
vas-tu ? Vous aimez bien savoir des choses très précises.
Bien, oui.
J'ai une relation de soralité avec ma sœur, oui.
De soralité. Après, vous pourriez faire tatouer ça aussi, soralité.
Non, pas forcément. C'est pas, ma sœur ne gère pas ma vie à ce point-là non plus, alors...
Encore heureux, c'est voilà. Vrai. Alors, écoutez, tout à l'heure, en tout cas, on écoutera Les Lunettes Noires, puisque
si
ça,
vous
c'est
voulez.
Vous qui chantez ça. Mm-hmm. Et c'était 2 ans après Les Brunes, compte pas pour des prunes, hein, c'était en 88. Mm-hmm. Mais pour l'instant, puisqu'il est 12h58, on s'interrompt un instant. Il y aura dans un instant le flash de 13h avec Philippe Robuchon, la météo d'Hélène Alleguera, et ensuite son invité, qui est en studio, et je le remercie, puisqu'il est arrivé un peu en avance, Serge Rezvani. Bonjour, monsieur Rezvani.
Bonjour.
À tout de suite. On vous retrouve dans un instant.
RTL, il est 13h01.
Le flash d'information tout de suite avec Philippe Robuchon.
En Sicile, constat d'échec, on l'a appris il y a quelques minutes, les dirigeants du G7 n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils reconnaissent l'absence de position commune sur le réchauffement climatique. 6 pays devraient donc réaffirmer leur engagement dans un texte commun, mais pas les États-Unis. Donald Trump, cet après-midi, ne devrait même pas participer à la conférence de presse. Changement d'habitude pour les voyageurs de la SNCF. À partir du 2 juillet, les TGV s'appelleront Inouï, les TGV les plus chers, avec une nouvelle gamme de services à bord. Changement de nom, changement marketing pour bien différencier les autres offres, notamment Ouigo, les TGV les plus économiques. Du football, Angers, Paris Saint-Germain, finale de la Coupe de France ce soir à Saint-Denis, coup d'envoi 21h. Rugby, Toulon premier qualifié pour la finale du top 14. Les Toulonnais ont battu La Rochelle 18-15 hier soir grâce à un drop à la dernière seconde d'Anthony Bello. Ce soir à 18h, toujours au stade Vélodrome, la seconde demi-finale Clermont-Racing. Le temps, eh bien je crois que
c'est avec vous, Hélène Noguera. Elle met ses
chaussettes.
Mais oui. Les températures seront encore très chaudes cet après-midi. On atteindra facilement les 30 degrés partout. Jusqu'à 33 à Mont-de-Marsan, 32 à Bordeaux et Lyon, 31 degrés à Paris et Lille. Elles seront plus fraîches en Bretagne, mais toujours chaudes pour la saison. Il fera 21 degrés à Brest. Côté ciel, encore beau sur l'ensemble du pays cet après-midi, avec quelques passages nuageux sur la partie ouest et le nord, où on aura également des averses parfois orageuses. Partout ailleurs, un beau soleil.
Voilà, un beau soleil partout ailleurs et notamment sur Paris. Je suis sûr que vous en profiterez à la sortie de RTL
avec
pour
joie.
Aller déjeuner en terrasse sans aucun doute.
Tout
et peut-être,
fait.
Pourquoi pas, avec votre invité, je ne sais pas, c'est Serge
Absolument.
Rezvani. Merci d'être avec nous, Serge Rezvani.
Je suis là pour ça.
Ah d'accord, c'est juste pour déjeuner avec Hélène.
Voilà.
D'accord. Pourquoi avez-vous souhaité que Serge Rezvani soit là et quelle est la connexion entre vous, Hélène ?
Ben Serge, c'est un grand, grand monsieur de notre culture française. Qui est un peu, après tu me corriges si je me... pour moi, un outsider, c'est un monsieur qui se met un peu en dehors d'un système de show business, etc. C'est un monsieur qui a écrit des grands, grands livres, qui a été peintre, oui, qui est toujours peintre d'ailleurs, qui a écrit les chansons qu'on connaît, qu'a chanté Jeanne Moreau, Le Tourbillon, La Mémoire qui flanche,
et que
chansons,
tu as chanté toi.
Et que j'ai chanté aussi,
surtout,
que j'ai reprise.
Aussi.
Quelques
Alors,
années après.
Je fais une incise parce qu'on va écouter justement
voilà.
Madame Moreau.
Elle brassait autour les poignets et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle de femme fatale qui me fut.
1962, Le Tourbillon, Jeanne Moreau, donc les paroles de Serge Rezvani.
Et la musique.
Et vous avez tout fait. Et au-delà, comment s'est fait la connexion? Un jour, vous vous êtes rencontrés ou vous avez cherché à le rencontrer?
C'est à toi de le raconter.
Allez-y,
je vais essayer de faire un résumé. Donc, en fait, j'étais fan, vraiment fan, groupie, folle de Serge.
Ouais.
Et donc, notamment après avoir lu Le Testament amoureux, que je conseille à tout le monde, parce que c'est le livre d'amour, justement, le plus incroyable qu'on ait jamais lu. Et donc, j'ai écrit à Serge plusieurs fois. Et il me répondait gentiment, comme on répond à une gentille lettre qu'on reçoit d'un admirateur. Et puis, des années après, Marie-Rose, qui est une libraire aux Abbesses, m'a proposé de chanter.
Je la connais, Marie-Rose, aux Abbesses. Voilà. Elle a fait une formidable librairie, oui.
Voilà. Et donc, elle faisait un hommage à Serge. Et puis, elle trouvait que je ressemblais à Lula, qui était la femme de Serge et qui est l'héroïne de beaucoup de ses romans. De par la ressemblance, elle m'a demandé d'aller chanter. Donc j'ai chanté des chansons de Serge, à un hommage à Serge. Et en rencontrant Serge, Serge m'a proposé d'enregistrer des chansons.
J'ai demandé vraiment parce que je trouvais très beau ce qu'elle faisait.
Et notamment celle-ci, Nous vivions deux.
Ah oui, que nous avons chanté à deux.
Ouais. Nous vivions deux, si seuls dans la vie nous nous aimions. Le reste importait peu. Les soirs d'été, par la fenêtre ouverte, Paris pour nous déployait tous ses feux.
C'était il y a 10 ans, ça, en 2007.
C'est drôle que vous sortiez cette chanson parce que je viens d'écrire une pièce de théâtre que Marie-Josée Natt va créer.
Votre épouse, oui.
Et oui, cette pièce commence par cette chanson. C'est vraiment drôle, le hasard.
L'ouverture de la pièce, c'est
oui,
ça?
Oui, absolument.
Ah, ça, c'est
et ça revient dans la pièce.
Oui, et alors, depuis que vous vous êtes rencontrés, quelle est la nature de vos liens, Serge Razvani? Vous travaillez ensemble? Vous créez ensemble?
Écoutez, moi, je suis très heureux qu'elle existe. On ne se voit pas assez.
Alors, je dois vous dire, Elena Noguera, tout à l'heure, vous n'étiez pas encore là. On parlait de vous, donc il me dit, vous savez, Elena Noguera, c'est une belle personne. Elle est belle. Dehors et dedans.
Exact.
Voilà, c'est une belle personne.
Merci.
Pourquoi c'est une belle personne? Elle a du tempérament, ça on sait. Mais pourquoi?
Non, la beauté, bien sûr qu'elle est très belle,
oui.
Mais bon, c'est vrai que je suis un grand esthète, donc j'apprécie énormément sa pure beauté, parce que c'est une beauté vraiment dans le vrai sens du mot.
Oui.
Mais une femme ne peut pas être belle si elle n'est pas belle de l'intérieur. Je ne veux pas dire l'âme, bon. De ce qu'elle est, de ce qu'elle pense, de ce que. Ben, voilà, sa chanson, justement, elle dit très bien. Sa chanson, c'est son intérieur.
Oui.
Voilà. Et donc, ça colle très bien. C'est très rare. Hein. Très rare de rencontrer une personne. Lula était comme ça. Marie-Josée Natt était comme ça. Il y a quelques femmes, mais c'est très, 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 très rare. Où les deux, la beauté extérieure et intérieure coïncident.
Plus de femmes que d'hommes, selon vous?
Les hommes ne m'intéressent pas. Sur ce
les hommes ne m'intéressent pas. Bon, alors,
ça
très bien.
Ça fait de très belles statues grecques, peut-être. Mais
c'est
camp,
tout, ça voilà. S'arrête là. Voilà. Et vous avez des choses en cours, là, tous les deux? Vous êtes sur des projets?
Non, pour l'instant,
dans
non,
un creux,
non.
Là.
On se voit ensemble, travailler ensemble.
Oui, bien
encore.
Sûr, bien sûr.
Non, pas forcément, on parle. Moi, je fais appel régulièrement à ses conseils, à son imaginaire.
Non, moi,
mais par exemple,
mon rêve, c'était de tourner un film. J'ai écrit une pièce, un roman qui s'appelle L'amour en face,
ouais.
Que je voulais réaliser moi-même en tant que réalisateur. Surtout que Truffaut me poussait beaucoup à faire un film. Alors, il aurait été en vie, on l'aurait fait ce film. Et j'aurais aimé que ce soit Elena qui soit l'héroïne.
Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait, pardonnez-moi?
Mais j'ai pas l'âme d'un capitaine de navire. Quoi. Non, c'est comme une tronçonneuse. Pour mettre en route une tronçonneuse, on se tue à la mettre en route. Et au moment où elle marche, on est déjà crevé. Et je pense que pour faire un film, on se tue avant de le faire. Beaucoup.
Ah, mais moi, je pense que c'est dommage que vous renonciez.
Voilà,
je pense que c'est dommage,
oui,
parce que vous aimeriez bien.
Ça aurait été merveilleux.
Ah oui. Et puis le livre, moi, j'ai lu énormément de romans de Serge, en tout cas ceux qui sont plus intimes et qui racontent plus de sa vie intime. Et j'adore ce livre.
Très beau rôle pour elle. C'était elle.
C'était elle, et voilà. Seulement elle.
Ah oui,
non,
oui,
mais non,
absolument.
Il ne faut pas que ça reste inabouti, un truc comme ça. Est-ce que, quand vous écrivez des romans, c'est votre troisième, hein, Ciao
oui.
Amore, vous lui faites lire?
Ah oui,
vous avez lu le manuscrit?
Bien sûr,
oui,
et je vois le livre pour la première fois, d'ailleurs.
Vous l'aviez
pas envoyé.
D'accord.
Le fait que je l'ai lu le manuscrit, elle n'a pas trouvé.
Vous ne l'avez pas envoyé?
Non, j'oublie.
C'est gonflé, ça, quand même.
C'est gonflé, mais on va passer à la maison, je vais t'en donner un. Mais si, je lui ai donné en manuscrit, et puis j'entends ça répond. J'aime bien comment il me le re-raconte. Ce qu'il m'en a dit, en plus, je dis, ah ouais, c'est incroyable, j'avais pas pensé à ça, mais il analyse un peu plus loin que même ce que vous avez... C'est comme s'il voyait votre inconscient.
Et Serge Razvani, vous êtes impitoyable dans la lecture, comme doit l'être un directeur de collection, par exemple ? Ou vous êtes plutôt conciliant et...
Ni conciliant, ni impitoyable, mais il y a des livres... Il suffit d'une phrase, la première... C'est, Daumier disait « Donnez-moi l'oreille d'un homme, je vous le dessine. Ouais. » Lisez la première phrase d'un livre et vous savez ce que vous allez lire. Bon, très bien.
La première phrase de celui-là, c'est ça. Cléophée arrivait à un âge où on peut commencer à pleurer sur sa vie.
Mais c'est magnifique.
Pas mal, hein. Elle a 28 ans, hein, Cléophée.
Oui,
c'est magnifique. Elle commence tôt, en l'occurrence.
Mais c'est l'âge des premiers bilans.
Mais la première phrase, c'est le roman.
Ah ben bah oui, c'est tout un art toujours, de trouver,
oui, c'est ça.
C'est l'art,
de trouver une accroche.
C'est très beau. On a envie de la deuxième.
Ah bah oui, tout à fait. Voilà. Dites-moi, Serge Razvani, quand même, bon, vous êtes écrivain, entre autres choses, mais vous êtes écrivain. Est-ce que la nomination de Françoise Nyssen au ministère de la Culture vous a hautement réjoui ? Enfin, vous la connaissez peut-être pas, mais vous connaissez...
Bien,
ah, vous la connaissez,
déjà,
d'accord.
J'ai édité 15 ou 20 de mes livres.
Non,
j'ai quitté Actes Sud pendant des années.
Oui.
J'ai quitté Actes Sud, bon, pour des raisons différentes. Différentes à la littérature, disons.
Oui, d'accord.
Voilà, et je trouve très bien qu'elle soit là. C'est une capitaine de navire.
Elle, c'est une capitaine de navire.
Non, bon, il faut voir si Macron restera Macron ou s'il ne devient pas Micron. si elle est à la hauteur de ce qu'il propose.
Oui.
Et si les gens qu'il nomme sont à la hauteur de ce qu'il leur demande.
Oui, mais écoutez, voilà. Ça, on verra l'usage.
On est dans un grand point d'interrogation.
Ben, il faut d'abord qu'il y ait les législatives. Ensuite, on verra comment tout ça se décante. Bien ça, sûr. C'est certain. Si vous aviez encore des choses à faire avec Serge Razvani, Elena Noguera, qu'est-ce que vous aimeriez faire ?
Des chansons, sans doute, et puis jouer. On a fait des concerts ensemble, et ça a été une grande leçon dans ma vie. J'ai appris avec Serge, mais de toute façon... Tout ce que j'ai appris avec lui, même quand je ne le connaissais pas, c'est-à-dire dans la lecture, c'est déjà, pour moi, c'est la liberté. C'est un homme libre. Et de le voir jouer sur scène, c'est extraordinaire parce qu'il connaît très peu d'accords et il a fait énormément de chansons avec très peu d'accords.
Ouais.
Il connaît trois accords. Tu connais
trois accords.
Et là, je suis en train de jouer du piano pour la première fois de ma vie. Et j'ai trouvé les trois accords qu'il me faut, donc ça va.
Voilà, et donc il y a l'imaginaire qui se met là en place. Le voir jouer, moi qui suis très bon élève, il faut faire bien, il faut... D'un seul coup, il me libérait. Je me disais, mais oui, mais en fait, je voyais l'audience suspendue à ses lèvres, alors que quand il aime pas, il reprend le couplet, deux phrases avant, et puis il s'arrête, il discute, il chante. C'est une liberté totale. Qui n'empêche pas de communiquer avec une audience qui est là et qui est curieuse de savoir ce qui est...
Je ne suis pas un professionnel.
Voilà. En fait, tu ne veux pas être
jamais
un professionnel.
Voulu l'être. J'ai pris un pseudonyme quand j'ai eu Julie Jim, où j'ai joué les rôles.
Donc, ouais.
Et je ne voulais pas. Donc, je suis resté caché. Et ça me convient très bien. Et c'est trop compliqué, mais je n'ai pas voulu entrer dans la profession. Je n'ai jamais voulu que d'autres que Jeanne, qu'Elena... Il y a aussi Mona Heftre, Francesca
Anna?
Solville.
Anna Karina aussi a chanté
Anna,
des chansons.
Anna Karina. Mais je n'ai jamais... J'ai été très sollicité, je n'ai jamais voulu entrer dans la profession. Donc je n'ai pas tenu à ce que tous ceux qui font la chanson française chantent mes chansons. Je n'y tenais pas.
J'ai une dernière question à vous poser, Serge Razvani. On l'évoquait avant l'émission, tous les deux, là, devant le studio. Vous êtes né à Téhéran. Voilà. Mais vous êtes parti d'Iran, vous aviez un an et demi.
Oui.
Vous n'y avez plus jamais remis les pieds. Alors, vous n'avez pas d'attache particulière avec l'Iran, mais au fond des choses, vous n'aimeriez pas y aller voir quand même ?
Non.
Non ?
Non, de toute façon, je ne suis pas voyageur. Comme tous les pays maintenant sont devenus des lieux de tourisme, on passe.
Oui.
Moi, j'aime vivre dans un endroit.
D'accord.
Alors, très bien. Le chat m'avait proposé d'aller m'installer en Iran. Il me faisait un pont d'or et. Et je me suis aperçu qu'à ce moment-là, j'ai voulu savoir ce qu'était l'Iran. Et je me suis aperçu que c'était une pays terrifiant. Et si bien que je me suis trouvé embarqué dans les histoires politiques qui me dépassaient. Mais quand même condamné à mort par la SAVAK.
Qui était la police secrète du Shah.
Voilà. Et donc après, il y a eu les ayatollahs qui m'ont invité aussi à y venir. Et j'ai pas envie d'être condamné à mort par eux. Donc non, j'ai pas envie d'y aller non plus. Bon. Non, donc l'Iran, je ne le verrai jamais.
Jamais l'Iran pour Serge Razvani.
Mais l'imaginaire est important.
Mais en tout cas, merci d'être venu au Journal Inattendu à l'invitation d'Elena Noguera.
Merci beaucoup.
Et puis, pour la suite, vous vous débrouillerez tous les deux.
Oui, enfin,
voilà, ça, c'est votre affaire. 13h14 sur RTL. On s'interrompt un instant et on continue dans le Journal Inattendu avec Elena Noguera. A tout de suite.
Le Journal Inattendu sur RTL avec Bernard Poirette et Elena Noguera.
Elena Noguera, à l'instant, Serge Rezvani nous disait que, en fait, il aime vivre dans des endroits et pas y passer en touriste. Et il constatait que le tourisme, souvent, est une véritable plaie. Vous l'avez constaté vous-même pour le Portugal. Je crois que vous n'aimez plus aller à Lisbonne. Pourquoi ?
Si, si, moi j'y vais. Je n'aime pas que les autres y aillent.
Ah voilà, mais vous ne pouvez pas aller seul.
Non,
donc,
non, moi j'y vais. J'ai un endroit là-bas. C'est, j'y vais beaucoup. Non, j'y vais. Je trouve juste que, justement, la défiscalisation est scandaleuse, que les Français qui s'en vont donc là-bas et qui vont profiter de leur retraite ici et ne participent plus de la vie sociale d'ici, donc ça rejoint ce que je vous disais tout
à
l'heure. Donc moi, j'y participe, donc je veux que tout le monde y participe. Et de partir là-bas, en plus, faire péter les prix, c'est-à-dire qu'il y a la gentrification qui est en train d'arriver à vitesse grand V, c'est-à-dire que les gens sont sortis de leur maison à Lisbonne, parce que ça devient Disneyland. Comme beaucoup de centres de villes, ça devient acheté par les Français. Et donc, c'est très énervant. Donc, les prix augmentent. Les autochtones sont contents parce que la ville se reconstruit. Certes, elle renaît de ses cendres, mais en même temps, elle leur échappe. Et puis, les choses, les prix locaux deviennent plus chers. Donc, ils sont obligés de sortir de la ville. Donc, on va sortir les Portugais. Ça va être une ville de Mickey, Disneyland. Et puis, les gens sont là. Il y a un tourisme de masse. Et en fait, c'est là où ça est énervant. Il faudrait vraiment réguler ça. C'est-à-dire que, ben oui, la terre est très belle partout. Donc, je comprends qu'on ait envie d'aller la voir. Mais pas comme ça, pas en écrasant les gens sur place. On a été les ringards de l'Europe pendant des années, mais restons-le. Là, on est les gens, ils me disent « Ah, t'es portugaise, mais j'adore Lisbonne, tu connais ça ?» Je dis « Mais oui, je connais, ça va. »
Forcément.
Arrêtez.
Vous avez peut-être été les ringards pendant longtemps, mais pas en football, hein, en tout cas.
En football, non, mais là, oui. Portugal, mais là, on gagne un peu trop de tout partout. Quoi. Même l'Eurovision, je me suis dit « Mais non, c'est pas possible !»
L'Eurovision.
Pas l'Eurovision, arrêtez de mettre la lumière sur le Portugal.
Nous n'existons pas, non, oubliez-nous.
Restons discrets, pauvres, laissez-nous tranquilles là-bas.
Elena Noguera, vous avez voulu aussi, dans ce Journal Inattendu, qu'on fasse un reportage sur un mouvement féministe né sur Internet il y a pas longtemps, 18 mois à peine. Ça s'appelle les Glorieuses. Alors, qui sont ces fameuses Glorieuses? Eh bien, c'est un petit groupe de femmes qui, chaque semaine, écrivent une newsletter, un mail, en fait, qu'elles envoient à leurs abonnés. C'est gratuit, hein, je précise, dans lequel elles délivrent des infos qui concernent les femmes. Mais pour en savoir un peu plus, eh bien Mélina Fachin est allée les rencontrer. Super. On écoute le reportage. Oui.
Rebecca Mena, parisienne de 28 ans, se sent concernée depuis longtemps par les questions d'égalité hommes-femmes. Elle a rejoint l'équipe de rédaction des Glorieuses il y a un an.
Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que je suis trop révoltée par tout ce qui se passe. Et en fait, à ce moment-là, j'ai découvert les Glorieuses.
Cette newsletter, envoyée par mail tous les mercredis à ceux qui s'y abonnent gratuitement, a pour objectif de casser les clichés sur les femmes, notamment ceux des magazines féminins.
Il faut vraiment montrer que, enfin, aux femmes qu'elles peuvent être absolument partout, qu'elles n'ont pas des sujets de prédilection comme la cuisine ou le tricot, mais qu'au contraire, elles ont leur place dans tous les domaines de la société.
Alors chaque semaine, la newsletter aborde des sujets peu traités dans la presse féminine, politique, culture, économie, sexe aussi, mais de manière différente, par exemple.
Peut-on aimer le porno quand on est féministe? Il y a certaines réalisatrices plus que réalisateurs qui se spécialisent là-dedans. Donc dans cette newsletter, nous vous conseillons les productions de Candida Royal ou celle d'Erika Lust, seule ou à plusieurs.
Pour Rebecca Mena, le féminisme à notre époque a encore toute sa raison d'être.
Très clairement, c'est absolument pas gagné. Typiquement sur les inégalités salariales, on est vraiment très loin de l'égalité.
Ce sont d'ailleurs les Glorieuses qui avaient lancé l'opération 7 novembre 16h34 il y a quelques mois.
On a calculé le salaire moyen des femmes et des hommes et on s'est rendu compte que le 7 novembre 16h34, c'est le moment à partir duquel une femme travaille gratuitement. Et en fait, ça a pris une ampleur incroyable, ça a été vraiment repris par de très nombreux médias. Ça montre aussi que notre lectorat attend qu'on s'implique politiquement.
Une opération qui a quasiment permis aux Glorieuses de doubler leur nombre d'abonnés. La plupart sont des femmes, comme Christelle, 35 ans, auto-entrepreneuse dans la publicité. Elle reçoit sa newsletter depuis 9 mois.
Personnellement, elle me fait énormément de bien. Je la reçois tous les mercredis et je l'attends, en fait. Il y a une véritable recherche presque académique et littéraire. Et ensuite, c'est traité avec un ton hyper positif, célébratif. Je suis vraiment, vraiment fan.
Sur les 60 000 abonnés à la newsletter, il y a aussi des hommes, 15% environ, puisque, comme l'expliquent les Glorieuses, le féminisme, ça concerne tout le monde.
Et pour vous abonner éventuellement gratuitement à cette newsletter ou soutenir financièrement Les Glorieuses, vous pouvez aller sur leur site internet lesglorieuses.fr. Vous êtes féministe donc,
oui.
Si je comprends bien,
oui, oui.
Elena Noguera, mais au sens noble du terme, pas au sens étriqué.
Ah, c'est marrant ça, c'est cette peur de ce mot féministe.
Non mais je vous explique pourquoi je vous pose la question. Tout à l'heure avec Serge Razvani, on parlait du Festival de Cannes.
Oui.
Et on se disait, tiens, demain soir, le palmarès, etc. Je lui disais, vous pensez, qui va gagner? Il dit, moi j'imagine bien que ce soit une femme qui ait la palme. Alors je lui dis, bah pourquoi? Il me dit, bah parce que, vous savez, les femmes, c'est dans l'air du temps et tout. Je lui dis, mais c'est idiot, il faut que ce soit un bon film, un homme ou une femme.
Oui, oui.
Vous n'êtes pas d'accord?
Ben si, mais le féminisme, il dit pas les femmes doivent gagner même quand elles sont cons.
C'est pas un petit peu, non, mais c'est pas un petit peu de la discrimination positive aussi parfois?
Non, pas du tout. Le féminisme en soi, ça, c'est de l'humanisme. Sauf qu'après, on s'occupe du sort des femmes. C'est comme les Noirs, quand ils veulent leur liberté, ben ils s'occupent de leur sort à eux. Mais ça veut pas dire qu'ils éliminent le reste du monde.
Oui.
Donc nous, les femmes, quand on est féministe, on n'élimine ni les hommes ni le reste du monde. On s'occupe de aller mieux et d'être plus libre. C'est quoi être féministe? C'est réclamer l'égalité en droit et en dignité.
Oui.
Donc c'est simple. Vous, Tarzan, et moi, Jane, et c'est formidable comme ça. Parce que vous savez faire des choses de Tarzan que moi, Jane, je ne sais pas faire et vice-versa. Donc moi, je ne veux pas être Tarzan. Pas du tout. Je ne veux pas être vous. Je veux rester moi dans mon identité et dans ce que je sais faire de femme. Je veux juste être libre comme vous. Et je veux avoir la même dignité que vous. Donc je veux gagner les prix, je veux être choisie en tant qu'artiste, point.
Être payée pareil.
Je veux aller dans la rue librement, je ne veux pas mourir sous les coups de mon mari, je ne veux pas être excisée, je ne veux pas être voilée, je veux être libre, je veux pas qu'il y ait de débat même. C'est-à-dire que le débat sur la burqa, pas la burqa, il n'y a pas de débat. Qui décide de comment on s'habille? C'est une folie ou pas de se dire, tiens, nous-mêmes, les femmes, on va accepter d'aller débattre de, oui, mais nous voulons une burqa ou pas, mais qu'elles fassent comme elles veulent, tout le monde. Mais qu'on arrête même d'en parler, c'est-à-dire qu'on ne va pas décider si c'est bien votre t-shirt, là, ou votre montre, ou est-ce que vous... Oh là là, j'ai trop envie de vous quand je vous vois avec un t-shirt, avec vos bras nus, et donc je dois me protéger de ça, couvrez-vous, parce que mon désir monte. Non, non. Tenez votre désir en laisse, tenez-le bien, et puis soyons des êtres désirants et désirables, parce que je suis féministe, ça ne veut pas dire que je ne veux pas être sexuée, que je ne veux pas vivre ma sexualité, ni séduire, ni mettre des talons si je veux, je ne suis pas contre tout ça. Donc, n'ayez pas peur du mot féminisme, c'est pour ça que je vous ai demandé d'aller voir Les Glorieuses, parce que Les Glorieuses sont des jeunes femmes, donc on pense que le féminisme, c'est des femmes des années 60 qui ont jeté leur soutien-gorge, qui sont vilaines et qui n'aiment pas les hommes. Non, non. Le féminisme, ce sont des femmes. Il y a toutes sortes de féminismes, d'ailleurs. C'est vrai, il y a plein de courants. Donc, il y a des plus ou moins agréables. Mmh. Il y a des plus ou moins qui aiment les hommes, etc. Évidemment. Mais en soi, le féminisme, comme Les Glorieuses, sont des jeunes femmes de 25, 35 ans qui ont conscience que pour être libre, eh ben, il faut donner confiance aux femmes. C'est ce que font Les Glorieuses dans leurs lettres. C'est prendre la parole, etc. Je suis longue, hein, mais c'est un sujet qui me passionne.
Pas devenir des hommes.
Ah, mais écoutez, non. Vous avez... Moi, j'ai rien à ajouter. C'est parfait.
Mais là, merci.
Non, mais voilà.
Non, mais je pourrais continuer, mais je vois bien qu'on fait des signaux qu'il faut s'arrêter. Mais...
Le problème, c'est qu'il y a l'invité surprise qui
bien
est
sûr.
Juste après la pause et qui voilà. Vous attend. Voilà.
Mais je crois que j'ai dit pas mal de trucs,
on a
saisi.
Ouais. Alors le problème, c'est que vous avez été très bonne, très complète, très exhaustive, mais du coup, il y a plein de trucs qui sautent dans l'émission.
C'est pas grave.
Je vous passe les détails.
Mais 13h24. C'est important, les femmes.
L'invité surprise, juste après la pause.
Le journal inattendu sur RTL, avec Bernard Poirette et Elena Noguera.
Allez, tout de suite, on appelle l'invité surprise pour Elena Noguera. Invité surprise, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour, je suis la surprise.
Vous êtes la surprise,
bonjour,
il faut parler un
surprise.
Petit peu plus pour qu'elle vous identifie.
Allô, 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 bonjour Elena, comment vas-tu?
Je vais très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de son dans le studio? Est-ce que vous avez un accent, invité surprise?
J'ai un lest d'accent de mon passé argentin.
Ah, je comprends tout de suite qui est cet invité surprise.
Bon, alors évidemment, il a donné la clé. Il a donné la clé.
C'est Martial Di Fonzobo.
Eh oui,
c'est moi.
Maldai, Marcel.
C'est Martial Di Fonzobo qui est votre metteur en scène, n'est-ce
c'est
pas?
C'est mon metteur en scène, à moi.
Dans la pièce Vera, que j'ai vue d'ailleurs, vous jouez avec Karine Viard. Martial Di Fonzobo, merci. Écoutez, on a très peu de temps parce qu'elle a été très longue, mais excellente sur le féminisme. Dites-nous en deux mots juste, comment s'est passée votre rencontre avec elle? Comment est-ce que vous avez connecté?
Alors, bon, je connaissais évidemment Elena, des tas de choses qu'elle avait faites, de sa chanson, et voilà. Et un jour, en sortant donc d'une représentation au Petit Chaillot, je crois que c'était, voilà, elle est venue à moi, elle m'a dit « Bonjour, je suis Elena Noguera, je voudrais travailler avec vous ». Et voilà, c'était aussi simple.
Au flanc, comme ça, tac.
Comme ça, comme elle est dans la vie, comme vous la voyez, belle, rayonnante et pleine d'énergie. Et évidemment, on se laisse difficilement passer à côté une opportunité pareille. Donc, dès que j'ai eu l'occasion de lui proposer de travailler ensemble, on l'a fait. On vient de faire Vera, comme vous l'avez dit. Mais avant, on avait aussi fait une pièce de Philippe Mignana au Théâtre de la Colline avec Catherine Yégel. Donc voilà, c'est notre deuxième spectacle ensemble.
Oui. C'est une bonne actrice. Hein. Moi, je l'ai vue dans Vera il y a 3 mois. Là, c'est une super actrice. Hein.
Je pense que, bon, je suis un peu gêné de le dire devant elle, mais comme je suis au téléphone, je vous le dis.
T'es obligé, Martial.
Et vous évidemment, pouvez rougir.
Évidemment que c'est une immense actrice. Et en dehors des qualités d'interprète, je soulignerais aussi, et très très haut et fort, sa qualité de femme, son de camarade, de plaisir dans le travail, de curiosité.
C'est ce que disait Razvani il y a quelques minutes.
Ouais,
merci Martial.
Bon, écoute, hein, c'est vrai.
Écoutez, en tout cas,
autant faire cette déclaration devant autant de spectateurs.
Ah bah oui, 500 000,
des millions.
500 000, 500 000, exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Martial Di Fonzobo. Pardonnez-nous, on vous a pris un peu tard, du coup, vous avez été un petit peu étriqué, mais en tout cas, on vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup
d'avoir
été en ligne avec nous.
Je t'embrasse, Elena.
Bisous, bisous. Ciao.
Merci infiniment, Elena Noguera, d'être venue partager tout ça pendant une heure à
RTL. Merci à vous de m'avoir invité.
On va se quitter sur un fond musical que je sais vous aimez beaucoup. Je crois que c'est une de vos chansons préférées. Et je rappelle, et puis on n'a pas pu vous écouter, que vous êtes le 9 juin en lecture au festival Intimité Publique.
Oui.
Que vous allez lire des lettres de Willy et Colette.
C'est ça.
C'est bien ça, ouais, entre autres.
Absolument.
Et puis vous avez plein d'autres activités. Ciao Amore, donc chez Flammarion. Et sur M6 le 13 juin, bienvenue à Nimbao. Bon week-end.
Merci, bon week-end.
Merci
à vous.
Infiniment. Merci. Cette chanson, tout le monde la connaît, évidemment. C'est Comme de Jane. Tout de suite, dans un petit instant sur RTL, on refait la télé. Jade, Éric Dussart. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne écoute. Je serai là demain à 7h pour vous présenter la matinale d'info. À demain.
Le journal inattendu sur RTL.
Vous écoutez RTL.